France Musique.
Et de 5, après Rameau, après Mozart, après quelques autres aussi, Raphaël Pichon revient à Jean-Sébastien Bach, 5e album, me semble-t-il, un disque de motets paru chez Harmonia Mundi, un disque qui apporte une joie sans fin. Bonjour Raphaël Pichon.
Bonjour Jean-Baptiste.
Tout le week-end, moi j'ai écouté, réécouté cette musique qui apaise, qui réconforte et surtout qui met dans un état de joie, d'allégresse. Vous aussi Raphaël, Bach vous fait cet effet ces derniers mois comme une valeur refuge quand tout va mal?
Absolument, bien sûr. Mais je n'ai pas attendu les derniers mois, cela me fait depuis que j'ai eu la chance de pouvoir commencer la musique, depuis que je suis adolescent, et ces pièces me suivent et continuent de m'apporter leur lot de jubilation.
C'est un moment, ces derniers mois, où vous avez pris le temps, vous qui êtes parfois hyperactif, voire boulimique?
Pris le temps, je crois que cela a été très compliqué de prendre le temps parce que finalement nous avons été extrêmement occupés à des choses extra-musicales, à, bien sûr à travailler à comment sauver, comment préserver, comment faire en sorte que nous puissions passer tous cette tempête, à la fois l'ensemble Pygmalion, ses musiciens, mais aussi les ensembles indépendants dans l'absolu. Donc non, je crois pas qu'on a eu beaucoup de temps. On a eu besoin il y a eu une nécessité de réfléchir, de faire un petit bilan, de regarder un tout petit peu vers l'arrière et d'essayer de comprendre un tout petit peu cette situation. Mais je crois que c'est une année très particulière où finalement, non, paradoxalement, je crois que tout le milieu culturel a énormément travaillé et malheureusement, ce n'est pas terminé.
On va en reparler tout à l'heure, Raphaël Pichon. Prendre le temps, vous l'avez fait, pour enregistrer ces motets, enfin, maintenant, alors que vous les chantez depuis enfant.
Oui, c'est un réel accomplissement pour nous. Et l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir pris le temps, justement, puisque ce sont des pièces que l'on donne en concert sous des formes variées depuis déjà 10 ou 12 ans, et je voulais voilà que l'on ait ce temps de mûrir l'interprétation, la compréhension, l'assimilation, l'appropriation de ces pièces. Et voilà, quelques 10 ans plus tard, avec une équipe maintenant très soudée, très fidèle, qui s'est constituée autour de ce projet, ce rêve devient un petit peu réalité.
Bach, les motets, Pygmalion, Raphaël Pichon, c'est chez Harmonia Mundi. On commence par la fin, si vous voulez bien. La dernière plage de ce disque, Lobet den Herrn in seinen Taten, louer le Seigneur en ses hauts faits.
Seine Taten, 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 seine Taten
disque qui finit par cet Alléluia, c'est ce motet, cette fin du motet 225, l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon. Ça vous dérange pas qu'on ait commencé par celui-ci ?
En aucun cas, je crois que c'est... Vous avez vu, c'est un quasi-état de transe où la danse rencontre la rhétorique, rencontre des prouesses d'écriture. C'est un sommet absolu.
La danse, d'ailleurs, c'est des danseuses qu'on voit. C'est assez étonnant sur la pochette de ce disque. Pourquoi ?
Alors, ce ne sont pas exactement des danseuses. Ce sont.
On pourrait croire.
C'est une analogie assez. Assez singulière, puisque c'est une photo d'une production du Requiem de Mozart qui a été mise en scène par Romeo Castellucci, que nous avons créé au Festival d'Aix-en-Provence à l'été 2018. Et donc, c'est le chœur de Pygmalion, effectivement en train de danser. Et je trouvais que le traitement de cette production, où le sacré rencontre le corps, c'est-à-dire quand Romeo Castellucci avait voulu traduire ce Requiem de Mozart par une sorte de danse infinie de corps, et cette analogie me paraissait assez évidente pour moi de l'assimiler au motet de Bach, avec toujours pareil avec Jean-Sébastien Bach, cet équilibre assez fascinant entre le fait qu'il s'adresse tout autant à notre cœur qu'il s'adresse à notre esprit. Et que toute sa musique est une expérience, et une expérience sensorielle, sensitive. On a souvent parlé de Jean-Sébastien Bach comme un compositeur presque intellectuel, une sorte d'immense scientifique, et je ne suis pas du tout d'accord avec ce regard. Je crois qu'au contraire, Jean-Sébastien Bach a, encore une fois, ce pouvoir de nous toucher, même si l'on ne connaît ou ne comprend que peu de la mécanique intérieure.
Des choristes qui dansent. Vous-même, Raphaël Pichon, quand vous dirigez, et vos chanteuses et chanteurs, vos corps s'animent quand vous chantez cette musique, quand vous la dirigez ? Vous, il vaut mieux ?
En tout cas, pour les motets de Jean-Sébastien Bach, les corps s'animent, parce que de toute façon, c'est une musique tellement exigeante. C'est un vrai challenge, hein. Vous savez, c'est 6 motets. Alors, on sait qu'il en a écrit beaucoup plus que ça. Il ne nous en reste que 6. Qui n'ont d'ailleurs pas grand-chose à faire les 6 ensemble sur un enregistrement, et la réunion de ces six pièces devient un véritable marathon, un véritable challenge physique, mais aussi intellectuel, puisque il y a une somme d'informations, et évidemment le plus grand challenge étant d'arriver à une grande forme de naturel.
Pourquoi pas grand-chose à faire ensemble ?
Parce que toutes ces pièces ont été écrites pour des occasions très variées, le plus souvent des funérailles. Et donc aujourd'hui, nous les rassemblons pour les donner soit en concert, soit sur un disque. Mais si vous voulez, c'est un tel concentré de jubilation, un tel concentré de musique extrêmement, extrêmement exigeante, que le danger de les réunir tous ensemble, ça peut être une sorte peut-être un peu de trop-plein. D'où l'idée d'ailleurs d'avoir inclus dans cet enregistrement d'autres pièces, d'autres compositeurs, issus d'un recueil que Bach utilisait lui-même quand il était maître de chapelle à Leipzig, la ville où il a exercé le plus longtemps dans sa carrière. Et ces pièces qui sont un tout petit peu des modèles pour lui, qui sont un peu les racines de ces motets.
Des motets en latin, on va en entendre dans quelques minutes. C'est quoi un motet ?
Un motet, c'est une pièce sacrée, sur un texte qui peut être soit un texte très libre, comme c'est le cas dans ces motets de Jean-Sébastien Bach, où on pense a priori que c'est Jean-Sébastien Bach lui-même qui a compilé des textes de l'Ancien, du Nouveau Testament. Donc ce sont des pièces sacrées sur un texte libre, qui peut être dans la langue d'origine du compositeur ou en latin, et qui peut utiliser un langage, et qui a très souvent utilisé un langage contrapuntique, c'est-à-dire un langage assez savant, où les voix s'articulent et dialoguent les unes entre elles pour faire passer le message derrière le texte choisi.
C'était la leçon du professeur Raphaël Pichon, le chef Pichon, non je plaisante Raphaël, le chef Pichon, le voici avec ce motet peut-être le plus célèbre, Jesu, Meine Freude, en voici un extrait. extrait de Jesu meine Freude, ce motet de Jean-Sébastien Bach, l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon sur ce disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi, un disque merveilleux, on le disait, qui fait du bien et qui est d'abord de la très belle musique. Vous nous avez dit qu'il y a sans doute beaucoup plus de motets de Jean-Sébastien Bach, qu'il n'en reste que 6. Comment on choisit l'effectif vocal, combien de chanteurs chantent et quel est l'accompagnement orchestral que vous avez choisi ici?
À mon sens, on choisit l'effectif. On choisit l'effectif qui vous ressemble. On choisit l'effectif qui définit le travail que vous avez commencé à entreprendre depuis un certain nombre d'années. C'est le cas avec Pygmalion, c'est-à-dire celui de la taille d'un ensemble vocal entre 18 et 25 chanteurs, qui correspond d'ailleurs de façon assez réel à l'effectif dont disposait Jean-Sébastien Bach pour les grands événements. Et ensuite une basse continue que moi j'aime riche, que j'aime colorée, avec la spécificité de prendre deux orgues, c'est-à-dire comme la plupart de ces motets sont à double cœur, donc un orgue qui peut accompagner chacun de ces deux chœurs, la sonorité si particulière du clavecin qui apporte cette vivacité rythmique et qui peut vraiment porter l'ensemble vocal. Ensuite les basses d'archet, c'est-à-dire à la fois un violoncelle et une contrebasse. Et j'ai voulu aussi m'adjoindre la sonorité de deux luths, deux théorbes, comme Jean-Sébastien Bach l'a parfois utilisé dans sa carrière. Je pense notamment à la cantate, une célèbre cantate funèbre qui s'appelle la Trauerode, qui est la cantate 198, qui est une magnifique pièce, et où Bach avait inclus des parties pour deux luths. Voilà, donc une basse continue assez riche, et d'essayer d'enrichir encore plus la possibilité de colorer et d'évoquer dans cette musique déjà si riche.
Les motets de Jean-Sébastien Bach chez Harmonia Mundi. Raphaël Pichon, on a un petit peu évoqué ces derniers mois, et ces derniers mois notamment, en mai, vous avez écrit une longue tribune, plus qu'une tribune d'ailleurs, avec un certain nombre de propositions détaillées appelant le monde de la musique classique, à se réinventer. Pourquoi s'être lancé dans ce texte-là, il y avait une question d'urgence et de nécessité?
Écoutez, tout d'abord, cela était une sorte de besoin personnel. Je crois dans la vertu, s'il y a une vertu à toute cette crise terrible que l'on traverse, c'est la possibilité de faire un bilan et peut-être de la mettre en parallèle avec la propre crise que nous traversons au sein du monde de la musique classique. Crise, j'entends par là le fait qu'aujourd'hui, évidemment, il est nécessaire de réfléchir à, pour nous, musiciens freelance, musiciens qui nous réclamons de maintenant 40 ou 50 ans d'une révolution qui était celle qui a été initiée par des personnalités comme Nicolaus Harnoncourt, Jean-Claude Malgoire, c'est-à-dire cette idée de réveiller tout un pan du répertoire, de réveiller toute une conscience du répertoire, de réveiller toute des traditions d'interprétation, des codes, des styles, des instruments, des couleurs, mais avec cette vocation de faire parler à nouveau les grands messages d'une grande partie de notre patrimoine. Je crois qu'il est important aujourd'hui de pouvoir regarder cet héritage et de nous poser aujourd'hui la question de quel est son avenir, où en sommes-nous dans un monde qui a profondément changé, dans un monde qui évolue à une vitesse de plus en plus rapide et où la musique classique pourrait être amenée malheureusement à ne jouer qu'un rôle un peu presque anecdotique. Alors qu'elle a tant à nous donner, tant à nous apporter, elle a apporté au public, à la jeunesse, si je pense par exemple au chant choral qui pourrait être un élément déterminant dans l'éducation artistique aujourd'hui en France. Voilà, je pense qu'il est important aussi de se poser la question de notre rapport, nous, à la création, à la nouvelle musique, au rapport à cette fameuse question du renouvellement des publics, la question des territoires.
Sortir de nos temples, vous avez écrit.
Oui, enfin, ça c'était une réaction un peu épidermique et surtout une réaction un tout petit peu pragmatique dans un moment où, malheureusement, une grande partie de nos lieux de concert ne sont que très peu compatibles avec les règles du Covid, et que donc l'une des réponses possibles était de partir à la découverte de nouveaux lieux qui vont nous permettre à la fois de délivrer et de proposer de nouvelles expériences, mais aussi d'embrasser les contraintes sanitaires.
De ces questions, créons, inventons, imaginons, repensons, est né un festival, une folie, comme vous l'avez dit, en quelques jours, à peine quelques semaines, à Bordeaux cet été, le festival Pulsation. Vous avez joué par exemple dans une basse sous-marine, entre autres aventures et événements. Quel bilan vous tirez de cette expérience-là, bordelaise et estivale ?
Écoutez, cela aurait été une magnifique expérience, avec donc, comme vous venez de le dire, la découverte de nombreux lieux magnifiques et surtout très inspirants à Bordeaux, la rencontre de nombreux publics, surtout un premier signe qui était très très positif pour nous, c'est que l'accueil a été réel. Tous les concerts ont été complets, les gens ont manifesté leur besoin, leur envie de revenir au concert dès ce mois de juillet. Et je crois que pour nous, j'espère que ce festival sera une sorte un tout petit peu de socles sur lesquels nous pourrons continuer à bâtir et à développer de nouveaux projets à Bordeaux, puisqu'il se trouve que Pygmalion est en résidence à Bordeaux et que nous avons différents projets là-bas, et que j'espère que voilà, ces expériences, nous allons en tirer un certain nombre d'enseignements qui vont nous permettre de continuer à rêver, je l'espère aussi dès l'année prochaine. J'espère que ce festival Pulsation aura une seconde édition dès l'année prochaine, et à continuer à développer et à travailler cette question des territoires.
Petit extrait de ce motet de Vincenzo Bertolucci, en latin, donc qu'on trouve, Bertolucci, hein, c'est comme ça qu'on dit.
Bertolucci, absolument.
Qu'on trouve également sur ce disque, puisque vous nous l'avez dit, il y a trois autres motets qui ne sont pas signés Jean-Sébastien Bach, antérieurs de ce grand corpus en latin qu'a connu Jean-Sébastien Bach et qui se trouve donc sur ce disque. Bach, Mozart, Rameau, c'est un peu votre sainte trinité musicale, peut-être. En tout cas, vous avez beaucoup joué ces trois compositeurs. Rameau, vous êtes en train de le répéter en ce moment à l'Opéra Comique. C'est Hippolyte Arécy, mise en scène par Jeanne Candel. Ce sera du 11 au 22 novembre avec des nouveaux horaires, des nouveaux jours. Couvre-feu oblige, 15h, mercredi, samedi et dimanche. Vous répétez. Dans quel état d'esprit êtes-vous, vous, Raphaël Pichon, les chanteurs, vos musiciens, sachant, on le voit, que tout peut tomber d'un jour à l'autre. On l'a vu à Rouen avec Tannhäuser, on a vu au Capitole de Toulouse que on finit par faire une des représentations avec piano-voix ou des arrangements au tout dernier moment, sans instrument avant. Vous avez toujours dans l'esprit ça, où il faut vraiment juste faire comme si, comme dans le monde d'avant, et puis on verra bien ensuite.
Non, bien sûr, c'est totalement impossible. Je crois que nous sommes dans un état d'esprit absolument déterminé, que ce soit les artistes de cette production, que ce soit la maison aussi, l'Opéra Comique, que je salue, parce que L'opéra comique a fait preuve d'une détermination et d'une réactivité absolument exemplaires. Le couvre-feu a été décrété un mercredi soir à 20h, le jeudi à 9h. Tout était déjà reprogrammé. La détermination de la maison a permis que jamais il n'y ait le moindre doute à l'idée que cette production puisse s'arrêter. Et d'ailleurs, je crois que voilà, on peut être assez fier et être assez lucide sur le fait que le monde de la musique classique dans son entier, depuis cette rentrée, fait preuve d'une détermination et d'une capacité de réactivité. Alors évidemment, ce couvre-feu, c'est une décision extrêmement clivante. Je crois que nous sommes tous un tout petit peu d'accord qu'il est compliqué de commencer à essayer de regarder en arrière, et qu'il n'est pas forcément d'ailleurs très très constructif de regarder en arrière, mais qu'il faut regarder en avant. Le président de la République nous a même aussi indiqué que, voilà, nous a montré un tout petit peu, démontré que cette crise était loin d'être finie. Maintenant, il place le curseur à l'été 2021, donc il nous attend encore beaucoup de temps difficiles, dans une situation qui était déjà profondément critique. Et notre détermination, c'est de continuer à proposer des spectacles de qualité avec, sans concession artistique, mais tout en étant extrêmement prudent, tout en apportant un soin très particulier. Et je voudrais aussi saluer la totalité des lieux culturels qui ont démontré depuis cette rentrée leur capacité à accueillir les publics dans des conditions sanitaires extrêmement satisfaisantes. C'est-à-dire qu'on, d'ailleurs, il n'y a pas eu d'exemple de cluster dans les lieux culturels. Je crois que le public suit. Je peux vous donner un exemple, c'est que le remplissage d'Hippolyte et Arissi est déjà formidable. Il reste encore des places. Mais donc, je crois que dans ce contexte extrêmement difficile, il faut absolument que nos pouvoirs publics, et là je pense évidemment tout particulièrement au monde indépendant, comprennent bien que les réelles conséquences et les réels moments très très compliqués s'annoncent pour 2021, et c'est pour ça qu'il faut aider massivement le monde indépendant dès cette fin d'année.
Raphaël Pichon, pour finir, vendredi dernier à votre place, John Eliot Gardiner disait que ces ensembles anglais étaient en péril. C'était ces mots qu'ils n'avaient pas touché un rond. C'était à nouveau ces mots du gouvernement britannique. Pygmalion, vous êtes inquiet pour votre ensemble ?
Écoutez, si je prends un tout petit peu de recul, je vous dirais que nous avons une grande chance d'être français. Le système de l'intermittence, la protection de nos musiciens, pour une grande partie, même si malheureusement il y a des oubliés, des laissés pour compte, nous avons une grande chance d'être français. Malgré tout, les structures, le grand risque aujourd'hui, c'est que à la rentrée de la saison 2021-2022, une grande partie de nos musiciens, malgré malheureusement des dégâts collatéraux, une grande partie de nos musiciens soient encore existe encore, soit toujours musicien, mais qu'il n'y ait de moins en moins d'employeurs et beaucoup de structures qui aient disparu, que ce soit des ensembles de musique classique, mais aussi des producteurs, des lieux de spectacle. Et c'est pour ça que j'ai une pensée, bien évidemment, pour les ensembles anglo-saxons. Je sais que c'est très compliqué. Nous avons des musiciens au sein de Pygmalion qui viennent du Royaume-Uni et qui sont dans une situation très précaire. Il n'y a pas que au Royaume-Uni. Il y a évidemment, je pense aussi à l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne. Et la France doit être, comme elle l'a été déjà depuis 20 ou 30 ans, elle doit continuer à être vraiment moteur, pilote. Et pour ça, il faut absolument qu'après avoir démontré que l'État français ait démontré cette capacité à soutenir massivement ses institutions, elle s'empare du monde indépendant et qu'elle le remette à sa juste place. Parce que pas du tout pour vouloir dresser l'un contre l'autre, bien au contraire, mais dans une complémentarité où ces ensembles indépendants jouent un rôle majeur dans la façon de proposer dans la musique classique des propositions extrêmement riches, extrêmement innovantes, extrêmement pertinentes, et surtout à un niveau d'exécution extrêmement haut. Et donc il faut penser au monde indépendant, et ce monde indépendant viendra ensuite jouer tout son rôle dans ces fameux territoires qui permettront que, au-delà de Paris, la musique classique rayonne.
à Paris, à l'Opéra Comique Hippolyte Arici, avec Raphaël Pichon, l'ensemble Pygmalion, mise en scène de Jeanne Candel. C'est du 12 au 22 novembre 2020. Et ce disque magnifique, indispensable, qui fait du bien, Les Motets de Jean-Sébastien Bach, vient de paraître chez Harmonia Mundi. Merci beaucoup, Raphaël Pichon.
Merci, Jean-Baptiste.
Dans un instant, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.